BFM Bourse, Culture Bourse.
Parce qu'investir en bourse, ben ça se cultive. Culture Bourse, vos questions sur vos investissements trouvent ici leur réponse. Julie Cohen-Herton et ses experts. Bonjour Julie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Parce que oui, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire pour avoir des réponses sur vos portefeuilles d'investissement. Et vous le savez désormais, eh bien vous nous écrivez à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr ou bien au QR code qui s'affiche si vous nous regardez à la télévision.
Et aujourd'hui Julie, une question sur l'impact des augmentations de capital sur les investisseurs et les actionnaires.
Et c'est Claude qui nous a écrit, il veut savoir si une augmentation de capital est véritablement synonyme de la dilution d'un titre. Et il précise que ce n'est visiblement pas le cas d'Alstom. Il se demande comment on peut encore faire confiance au pragmatisme des marchés. Certains sont privilégiés, d'autres mal aimés, voire maltraités. Voilà ce qu'il dit. Mais il y a un expert en qui on peut avoir confiance pour nous répondre. Et cet expert, eh bien, c'est Thibaut François pour Fastea Capital. Bonjour Thibaut.
Bonjour Julie.
Alors Thibaut, qu'est-ce que vous répondez à Claude sur ce lien de cause à effet? Est-ce que selon vous, il est systématique?
Écoutez, tout dépend en fait de l'augmentation de capital et pourquoi l'augmentation de capital doit être réalisée par l'entreprise. Si c'est une augmentation capital qui est défensive, alors c'est souvent le cas ces derniers temps pour les entreprises, on va dire françaises. Ça veut dire que pourquoi ils font cette augmentation, c'est que en fait il y a plus de croissance dans la boîte, ou alors les cash flows sont faibles, ou alors il y a des endettements qui sont importants et qui n'arrivent pas à rembourser. Et donc effectivement la société émet des titres, donc fait une augmentation de capital qui est jugée défensive. Et effectivement dans ce cas-là, bah c'est plutôt dilutif pour l'actionnaire parce qu'on crée des titres. On ne crée pas de valeur ajoutée et effectivement, il y a plus d'actionnaires dans la société, plus de titres et donc c'est forcément une dilution pour les actionnaires qui étaient existants auparavant. Par contre, il y a une deuxième augmentation de capital qui est possible. Celle-ci, elle est offensive. C'est quand la société a des projets de développement qu'elle ne peut pas financer avec des fonds propres, par exemple pour faire une grosse acquisition, une grosse croissance externe avec un impact qui peut être bien positif avec de la valeur ajoutée pour l'actionnaire. Là, on fait une augmentation de capital avec une création de titres, mais la valeur ajoutée est supérieure à cette création de titres. Et donc là, l'opération est relutive pour les actionnaires. Donc, les deux sont possibles aujourd'hui sur une augmentation de capital.
Mais alors, du coup, Thibaut, est-ce que vous pensez qu'on peut quand même faire confiance au pragmatisme des marchés?
Alors, le pragmatisme des marchés, c'est une vaste théorie. On parle aussi d'efficience des marchés. Est-ce que les marchés sont efficients? Est-ce qu'ils sont pragmatiques? Alors, sur le long terme, j'ai toujours envie d'y penser, de croire que c'est possible. Oui, les marchés sont pragmatiques. On est dans une certaine rationalité, dans une certaine efficacité du marché. Donc, à long terme, je pense que c'est tout à fait possible. Alors, maintenant, dans le cas d'Alstom, avec l'augmentation de capital qui est en cours, le gros problème, et c'est là où les marchés sont particulièrement pragmatiques, on attend une augmentation de capital parce que aujourd'hui Alstom a des difficultés financières. Aujourd'hui, tout ne changera pas demain chez Alstom. Notamment, les dirigeants qui ont mis en place la stratégie ont du mal et n'arrivent pas à bénéficier de la croissance et de la confiance du marché. Donc, pour moi, ils sont pragmatiques. Ils n'achètent pas aujourd'hui Alstom parce qu'aujourd'hui, il manque encore des choses pour pouvoir créer de la valeur ajoutée pour l'actionnaire à long terme.
Thibaut François, ça vous dit de rester avec nous en fil rouge, Thibaut?
Avec grand plaisir, Guillaume.
Eh ben, plaisir partagé pour aller, pourquoi pas, naviguer ensemble au cœur de cette séance, rebondir ensemble sur ces valeurs qui font la séance du jour. Rendez-vous dans un instant, Thibaut. Vous restez bien en ligne. On vous recontacte donc dans un instant pour effectivement continuer d'éclairer nos auditeurs et téléspectateurs. Parce que Culture Bourse, bien sûr, ce sont des réponses à vos questions, mais on va plus loin. On pousse les feux encore un peu plus, Julie, avec une pédagogie financière toujours au rendez-vous chaque jour à 15h50.
Exactement, Guillaume. Et alors, si vous êtes investisseur, peut-être que vous êtes déjà demandé ce qu'est une vente à découvert ou VAD. Alors, en quoi consiste cette opération financière? Est-ce qu'elle n'est pas trop risquée? Eh bien, on va voir ça aujourd'hui avec notre pédagogue du jour. Et c'est Antoine Fraisse-Soulier, le responsable de l'analyse des marchés chez Itoro. Bonjour Antoine, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors Antoine, on va reprendre les bases. On est dans le Culture Bourse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement, concrètement, efficacement, ce qu'est une vente à découvert?
Alors oui, alors la vente à découvert, qui se dit aussi short selling en anglais, donc quand on est short, ça consiste à vendre un actif donc sans le posséder. Donc vous me direz comment on peut faire? Eh bien, c'est une institution financière qui va vous prêter les titres. Vous allez les vendre et ensuite vous allez attendre que le titre baisse pour les racheter. Voilà, donc ça permet en fait de jouer la baisse sur un actif.
Alors, ça, c'est pour la définition. Mais alors, du coup, c'est quand même très spéculatif. C'est quoi l'intérêt pour un investisseur d'opter pour une telle approche? En gros, c'est quoi les avantages et les inconvénients?
Alors, l'avantage premier, c'est que vous pouvez gagner de l'argent même si un titre baisse. Ça, c'est vraiment l'avantage premier. C'est-à-dire que lorsque vous, donc vous shortez, hein, comme on dit dans le jargon, donc vous estimez, par exemple, qu'un titre est trop surélevé, par exemple, et vous le shortez, vous attendez qu'une baisse arrive, et ensuite vous le rachetez plus bas, donc vous matérialisez un gain. Vous pouvez aussi vous couvrir avec des shorts, hein, lorsque vous pensez que les marchés vont baisser, vous pouvez vendre des futurs, shorter des titres pour vous couvrir. Donc ça, c'est les avantages principaux. Ensuite, les inconvénients, c'est que le risque de perte est illimité, parce que si ça va pas dans votre sens, hein, donc vous prenez l'exemple de vendez le titre, si l'action continue de monter, elle peut monter indéfiniment, et là vous devez racheter le titre plus haut, et donc vous matérialisez une perte. Donc c'est le risque principal, c'est justement la perte illimitée. Et donc, petite anecdote aussi, c'est par exemple George Soros, c'est le plus gros gain en short, lorsqu'il avait shorté en 92 la livre sterling, il avait matérialisé un gain d'un milliard de livres. Enfin, il y a plein d'histoires de short qui se sont très bien passées.
D'accord, bon, un peu audacieux, mais en tout cas, ça peut être rentable. Merci beaucoup, Antoine Fraisse-Soulier pour eToro de nous avoir accompagnés. Et on vous retrouve très prochainement pour un nouveau Culture Bourse.
Culture Bourse, 15h50 chaque jour. Julie Cohenerton et ses experts. À demain, Julie, pour de nouvelles aventures. Salut Antoine, bon retour. Merci de nous avoir accompagnés également.